Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL.
Je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger dans une position confortable et à fermer les yeux.
Le journal inattendu.
Il faut distinguer ce qui dépend de soi, ce qui dépend pas de soi. Ce qui dépend de soi, que je peux changer, je me bats pour le changer. Tout. Puis quand ça dépend pas de moi, je peux rien faire. Il vaut mieux accepter joyeusement ce que je peux pas changer.
12h30, 13h30.
Et je me dis, mais au fond, la joie, le bonheur n'est pas lié à l'apparence physique, à l'argent, à la réussite sociale. Je voyais les gens, les rebuts de l'humanité selon nos critères occidentaux, qui me donnent une leçon d'humanité, de bonheur, de joie, de solidarité, d'intérêt pour toi, de dignité.
Le bonheur est dans le journal inattendu, avec Frédéric Lenoir et Vincent Parisot sur RTL.
J'expire profondément. Je vais sortir de cet état de méditation. Quand je le souhaiterai, je pourrai ouvrir les yeux.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
On peut ouvrir les yeux et vous remercier de prendre les commandes pour une heure de ce journal inattendu pour parler de vous, de la vie, du bonheur, de spiritualité, de quête de sens, de transcendance peut-être. Pour parler aussi de votre dernier ouvrage, Vivre dans un monde imprévisible. On peut dire que c'est un peu un livre mode d'emploi pour nous aider à mieux vivre cette période d'épidémie ou de post-épidémie et peut-être faire, qui sait, de cette crise sanitaire une opportunité. Tiens, il y en a un autre d'ailleurs qui dit à peu près la même chose mais version slam.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix.
Grand corps malade, qui sera donc votre invité après 13h. Et on aura d'ailleurs la chance de découvrir son tout dernier titre, préambule d'un album entièrement dédié aux femmes. On va écouter aussi vos choix musicaux, quelques répliques de films, mais surtout tenter de découvrir qui se cache derrière celui qui, d'année en année, nous interpelle avec des livres au succès incroyable sur le sens de la vie, finalement, sur le bonheur, sur la sagesse. Peut-être que l'invité surprise qui appellera en fin d'émission nous aidera d'ailleurs un peu pour ça. Mais comme toujours dans le journal inattendu, il faut commencer, Frédéric Lenoir, par vous tirer le portrait. Qui êtes-vous ?
Que c'est difficile de répondre à cette question. Alors, je vais biaiser un petit peu, je vais dire ce que j'aurais pu être, finalement, que je n'ai pas été.
Ouais.
Et c'est ma vieille maman, âgée de 95 ans, qui m'a rappelé pendant le confinement, d'ailleurs je l'embrasse affectueusement, parce qu'elle écoute sûrement, qui m'a rappelé que ma première vocation, c'est d'être cambrioleur.
Ah.
Puisqu'elle m'a surpris à l'âge de 4 ans, en train d'enterrer l'argenterie au fond du jardin. Et lorsqu'elle m'a posé la question, qu'est-ce que je fais, ma petite sœur, que j'avais pris comme complice, qui a un an de moins que moi, lui a répondu, Frédéric, il veut être cambrioleur, il s'entraîne. Alors, j'ai continué de m'entraîner un peu en faisant les vestes de mon père pour piquer quelques francs pour m'acheter des bonbons.
Ouais.
Et puis celui qui m'a arraché à cette mauvaise vocation, c'est Socrate, que j'ai découvert, parce que j'avais aussi un père philosophe, que j'ai découvert à l'âge de 13-14 ans, et les dialogues socratiques m'ont converti à la philosophie. Et c'est-à-dire la philosophie, pour moi, ça a été, à travers Socrate, ne pas essayer simplement de réussir dans la vie, c'est-à-dire d'avoir une belle situation, de gagner de l'argent, d'être connu, mais de réussir ma vie. Mmh. C'est-à-dire d'essayer d'être un être humain accompli, un être humain juste, un être humain heureux, autant que je peux le faire. Et puis dans cette quête, j'ai rencontré le bouddhisme, donc j'ai rencontré la méditation que je pratique depuis plus de 35 ans. J'ai rencontré les évangiles, j'ai été bouleversé par le message du Christ. Et j'ai continué mes études de philosophie, de sociologie, j'ai fait un doctorat. Et pour financer mes études doctorales, je travaillais à l'Express et je faisais des dossiers sur les religions et la philosophie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, je veux quand même réussir un minimum aussi dans la vie. Il me faut quand même un métier, une sécurité matérielle, une carte de visite, un vrai boulot, quoi.
Ouais.
Et donc je postule au CNRS et là on me dit mais te présente même pas, tu fais du journalisme, on va prendre quelqu'un qui est purement universitaire, un vrai scientifique. Et puis alors du coup je me rabats sur l'Express, je dis bon allez j'en ai marre d'être pigiste, maintenant je voudrais être journaliste au service culture. Et Denis Jean Barre me dit mais Frédéric on t'adore mais t'es beaucoup trop universitaire, finalement il faut un pur journaliste. Alors du coup toutes les portes s'étant fermées, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire tout seul, écrire des bouquins.
Ouais.
Et je ne le regrette pas.
Voilà, il aurait pu être cambrioleur, il est devenu philosophe, sociologue, en tout cas il est rentré à RTL par la porte, hein, pas par la fenêtre. C'est son journal inattendu jusqu'à 13h30. On commence par l'actualité de ce samedi 20 juin, marqué par une nouvelle accélération du déconfinement. Feu vert à partir de lundi pour la pratique des sports collectifs, l'ouverture des cinémas, des casinos, des centres de vacances. Les stades et les hippodromes pourront rouvrir le 11 juillet avec un maximum de 5000 spectateurs. On vous donne le détail dans un instant. Pour la fête de la musique, demain, ce sera en version minimaliste, puisque les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits sauf autorisation préfectorale. Et puis on en sait plus également pour la cérémonie du 14 juillet. Il y aura quand même un petit défilé à la Concorde. Emmanuel Macron veut tirer l'affaire Fillon au clair. Le président a saisi le Conseil supérieur de la magistrature après les déclarations de l'ancienne chef du parquet national financier. Elle avait déclaré avoir mené une enquête sous pression. Pas de manif cet après-midi à Dijon, malgré l'appel d'habitants du quartier des Grésilles. Après les violences du début de semaine, le préfet l'a interdite. Interdite également la manifestation parisienne à l'appel d'associations tchétchènes. Une statue d'un général sudiste déboulonné à Washington par des manifestants antiracistes. Donald Trump parle de honte pour les États-Unis. Et puis la Convention citoyenne, qui est en plein travail pour voter sur 150 propositions destinées à lutter contre le réchauffement climatique. Les 150 membres de cette commission, d'ailleurs, seront reçus à l'Élysée et le chef de l'État devrait leur apporter une première réponse dans 10 jours. La météo, Valérie Quintin, ça se réchauffe ou pas?
Alors, ça se réchauffe un peu dans le sud du pays, surtout 31 degrés attendus à Montpellier cet après-midi. Il fera 28 à Marseille, 26 degrés sur Grenoble, 24 à Paris et Arcachon, 23 degrés à Lille, 22 degrés à Colmar, 20 degrés au Guilvinec, avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Quelques averses pour la moitié nord, des averses qui vont surtout se concentrer dans le nord-est, alors que la moitié sud aura un ciel tout bleu. Quelques orages en montagne ce soir sur les Alpes et les Pyrénées, puis à noter un petit mistral à 60 km/h en Provence.
Merci Valérie, repos pour vous.
J'y vais.
Parce que à 13h, eh bien c'est vous, Frédéric Lenoir, qui serez Monsieur Météo.
Le journal inattendu sur RTL.
Le gouvernement a donc donné son feu vert la nuit dernière à une nouvelle étape du déconfinement, des annonces faites au terme d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Au cœur de cette réunion et au cours de cette réunion, Olivier Véran a souligné que les indicateurs de suivi de l'épidémie sont toujours globalement bien orientés, mais que la vigilance doit rester forte. En tout cas, donc, Mourad Djabari, à partir de lundi, va y avoir du sport.
Oui, le gouvernement a décidé d'autoriser la pratique de tous les sports collectifs, et cela dès lundi. Alors, toujours, je cite, avec des mesures de prévention adaptées contre l'épidémie de coronavirus, il faut comprendre l'application encore des gestes barrières. Par exemple, respecter une distance de 2 mètres entre sportifs et de 10 mètres pour une activité linéaire comme la course ou le vélo. En revanche, la pratique des sports de combat reste interdite pour le moment. On n'oublie pas non plus la réouverture des cinémas, des casinos, des centres de vacances lundi. Mais Édouard Philippe l'avait déjà annoncé. L'autre bonne nouvelle du jour, c'est aussi la réouverture des stades à partir du 11 juillet, date de la fin de l'état d'urgence, avec une jauge, une capacité maximale de 5000 personnes, ce qui est valable aussi pour les hippodromes et les salles de spectacle. Matignon explique qu'un autre point sur la situation sanitaire sera fait mi-juillet et pourrait décider d'autres assouplissements pour la fin de l'été. Les théâtres et les discothèques doivent attendre au moins septembre. Et puis ces annonces, l'accélération du déconfinement ne change rien pour demain. La fête de la musique se fera toujours sans public. Les rassemblements dans les rues de plus de 10 personnes restent interdits.
Merci beaucoup Mourad Djabari. Et puis le 14 juillet, c'est une cérémonie au format ultra réduit qui va se dérouler à Paris. Il y aura bien un petit défilé à la Concorde, mais pas sur les Champs-Élysées. Dans le ciel, la patrouille de France sera de la partie. Des célébrations qui mettront à l'honneur le personnel soignant. Écoutez le général Bruno Le Ray, le gouverneur militaire de Paris. Il est avec Brice Dugénie.
D'une manière générale, c'est bien l'ensemble des personnes qui ont été engagées dans la lutte contre l'épidémie qui sont mis à l'honneur durant cette édition. Nous avons choisi de mettre à l'honneur un détachement militaire correspondant à une opération particulière et évidemment, cette année, l'opération Résilience s'imposait tout particulièrement et nous avons choisi de mettre à l'honneur le service de santé qui ouvrira ce défilé.
Voilà donc ce que dit le général Bruno Le Ray, le gouverneur militaire de Paris. Vous l'avez entendu, il a prononcé le mot résilience, oui, opération résilience.
C'est rare qu'on entende ce mot dans la bouche d'un homme politique ou d'un militaire. Ouais. Et parce que j'ai essayé d'écrire un petit traité de résilience, et la résilience, au fond, c'est se reconstruire après un choc. C'est le rebond. Et on peut résilier tant au niveau individuel, lorsqu'on a subi une épreuve, mais aussi au niveau collectif. Une société, une nation peut résilier après une guerre, après une épreuve collective. Je pense qu'actuellement, la France, globalement, est en résilience et beaucoup d'individus qui ont été trop déstabilisés ou choqués pendant cette crise sont en résilience, rentrent en résilience. Ils essayent de se reconstruire.
Alors justement, on va en parler dans quelques instants. Mais on va marquer une pause. Vous avez parlé de rebond. Y a une affaire qui rebondit, c'est l'affaire Fillon. À tout de suite.
Confidentiel des pères. Le journal inattendu de Frédéric Lenoir avec Vincent Parisot sur RTL.
Emmanuel Macron a donc décidé de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Objectif, savoir si le parquet national financier a pu exercer son travail en toute sérénité lors de son enquête sur François Fillon et son épouse au début de l'année 2017, quelques semaines avant la présidentielle. C'est l'ex-procureur du parquet national financier, Éliane Houlette, qui a mis le feu aux poudres il y a quelques jours devant la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Elle avait parlé d'un contrôle très étroit du parquet général, son autorité de tutelle. Alors depuis, son avocat a déploré des propos déformés ou mal compris. Ce qui est certain, Marie-Bénédicte Allaire, c'est que l'Élysée veut couper court maintenant à la polémique.
Et oui, absolument, car si pression il y a bien eu pour interférer sur le cours de l'enquête en pleine campagne présidentielle, comme le laissent penser les propos de l'ex-procureur, les partisans de François Fillon ont vite fait d'en tirer les conséquences, comme Éric Ciotti, le député LR, le confiait ce matin à RTL.
Ce dont je suis certain, c'est que la mise en examen lui a enlevé toute chance. Voilà, au moment où cette affaire est lancée, François Fillon est très largement en tête et en passe d'être élu président de la République. Voilà.
En réalité, depuis début 2017, François Fillon n'était déjà plus le favori absolu des sondages. L'Élysée juge tout de même essentiel de lever tout doute sur l'impartialité de la justice pour bien montrer qu'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec une éventuelle manipulation. Son départ du gouvernement, en délicatesse avec François Hollande, date d'ailleurs d'août 2016. Mais au-delà du cas Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon voient dans ce rebondissement la preuve que la justice est aux ordres, y compris dans les affaires qui les concernent. Emmanuel Macron a donc tout intérêt à faire retomber la pression.
Marie-Bénédicte Allaire. Aux États-Unis, la seule statue d'un général sudiste à Washington a été déboulonnée la nuit dernière par des manifestants antiracistes. Il s'agit de la statue d'Albert Pike, général confédéré lors de la guerre de sécession. Les manifestants l'ont fait tomber à l'aide de cordes au cri de Black Lives Matter. Acte qui s'est déroulé en ce jour anniversaire du Juneteenth. C'est ce jour de 1865 où les derniers esclaves avaient été libérés au Texas. Alors Donald Trump a réagi immédiatement sur Twitter, qualifiant cet acte de honte pour le pays, accusant la police de ne pas faire son travail. Ces statues qu'on déboulonne, est-ce qu'on peut appeler ça de la résilience après tout ?
Alors ça peut être une forme de résilience pour ceux qui ont été les victimes, par exemple, de ces actes racistes du passé. Mais je pense que c'était quand même une erreur. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas télescoper l'histoire comme ça. Des gens qui ont été racistes dans le passé, aujourd'hui, ne seraient peut-être pas du tout. Et les gens qui, aujourd'hui, condamnent le racisme auraient peut-être été racistes il y a 200 ans. Les mentalités complètement évoluées. Donc, autant je comprends, et j'approuve vraiment tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, depuis la mort de George Floyd, sur le racisme dans la police qui est très généralisé aux États-Unis, autant je trouve que ces actes-là n'ont pas lieu d'être.
La crise des Gilets jaunes, vous en souvenez sans doute, Frédéric Lenoir avait amené Emmanuel Macron à organiser un exercice de démocratie participative, la Convention citoyenne pour le climat, composée de 150 citoyens tirés au sort. Eh bien, elle est réunie depuis hier au Conseil économique, social, environnemental pour passer en revue et voter 150 propositions. Alors, certaines font déjà polémique, avec peu de chances d'être adoptées, comme la limitation à 110 de la vitesse autorisée sur autoroute. Mais il y en a d'autres qui sont plus consensuelles, Virginie Garin, et notamment celles qui portent sur les déchets en général, et notamment les plastiques. Les citoyens sont plus ambitieux que le gouvernement.
Oui, ils veulent accélérer le calendrier. Sylvie a présenté les mesures sur l'interdiction du plastique et l'obligation de le recycler.
C'est faire en sorte que d'ici 2023, tous les plastiques soient devenus recyclables et que tous les plastiques à usage unique soient interdits.
Vous avez entendu, dès 2023, or la loi sur l'économie circulaire, elle prévoit 2040. Alors comment ? En mettant le paquet sur l'innovation pour trouver de nouvelles matières. Et puis, les citoyens veulent des sanctions. Si les entreprises ne respectent pas les lois sur les déchets et le recyclage, ça pourrait aller jusqu'à la fermeture. Yves, lui, n'était pas tout à fait d'accord.
En termes de justice sociale, c'est contradictoire parce que qui va en pâtir ? Ce sont avant tout les ouvriers qui y travaillent.
Rien ne changera sans sanction. Le débat était assez vif. Un autre citoyen a rappelé l'affaire Volkswagen.
Heureusement que Volkswagen a été pénalisé. Parce que si ça n'avait pas été le cas, des dizaines d'autres entreprises auraient continué dans la même voie. Donc il est important qu'il y ait une sanction. Et c'est vrai que c'est extrêmement injuste parce qu'elle a effectivement également affecté des employés de Volkswagen.
Toutes ces mesures pour aller vers moins de plastique ont été adoptées avec 97% de voix favorables.
Oui, quasi unanimité. Merci Virginie Garin. Emmanuel Macron va convoquer les 150 membres de cette convention le 29 juin, c'est-à-dire au lendemain des municipales, et il devrait leur apporter des débuts de réponse. Frédéric Lenoir, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça donnera, évidemment, mais est-ce que vous pensez que la démocratie participative peut aujourd'hui commencer à empiéter un peu sur le terrain de la démocratie classique parlementaire.
Moi, ça fait très longtemps que je milite, et bien avant les Gilets jaunes, que je milite pour une démocratie participative, puisque je connais bien l'exemple de la Suisse, dans lequel il y a les votations locales, et c'est formidable comme système. Ça permet qu'il y ait des initiatives déjà populaires, mais ensuite, ça permet aussi de faire des référendums locaux qui court-circuitent des fois l'exécutif, et on voit que les citoyens ont des fois beaucoup plus d'ambition. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir avec ces propositions des citoyens. Donc là, on sait bien que c'est l'exécutif qui va quand même décider. Ils n'ont pas le pouvoir, mais on peut avoir des surprises, et ça va en tout cas stimuler le gouvernement de voir que des citoyens tirés au sort finalement sont peut-être beaucoup plus courageux et ambitieux qu'eux, notamment en matière d'écologie.
Notamment en matière d'environnement, d'ailleurs on les sent plus coercitifs, là on voit sur le plastique.
On n'a pas vraiment le choix, on le sait très bien malheureusement, on l'a vu avec le confinement, si vous ne dites pas aux gens qu'ils vont avoir un PV s'ils font des choses illégales, ils feraient des choses qui ne seraient pas très raisonnables, donc malheureusement le coercitif est encore nécessaire pour beaucoup de choses. Et je crois que l'écologie, aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur de notre époque. Je pense qu'il y a des liens entre ce que la crise du Covid, en tout cas les maladies, les pandémies depuis 30 ans, à 70% sont zoonoses, c'est-à-dire qu'elles sont liées à des animaux qui sont sortis de leur milieu naturel. Et donc la pression qu'on exerce sur les forêts, la déforestation, etc., a des conséquences sanitaires. Mmh. Et donc je crois que tout ce qu'on sait sur le réchauffement climatique, la pollution, etc., aujourd'hui nous oblige à prendre des mesures radicales. Or, on nous a dit depuis des années, on n'a pas l'argent pour financer la transition écologique. Et là, on vient de trouver 750 milliards d'euros pour relancer l'économie classique. Eh bien, mettons quelques centaines de milliards d'euros pour financer la transition écologique, c'est-à-dire qu'on va peut-être perdre des emplois dans l'aéronautique, dans l'automobile, etc., mais on va en gagner dans les énergies renouvelables et dans d'autres domaines qui sont utiles à la planète et à l'humanité.
Voilà comment imagine le monde d'après Frédéric Lenoir, qui est à la tête de ce journal inattendu jusqu'à 13h30, vivre dans un monde imprévisible. On est au cœur du sujet. À tout de suite.
Le journal inattendu de Frédéric Lenoir avec Vincent Parisot sur RTL.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez.
Brassens, évidemment, cette chanson pour l'Auvergnat que vous avez choisi, c'est aussi un hymne à la solidarité, à l'entraide, à l'humanité, à la fraternité.
Mais tout à fait, on est dans une société qui est de plus en plus dure, où il y a de plus en plus d'irrespect, d'intolérance, de violence, les communautés se montent les unes contre les autres, et j'avais envie de rappeler que ce qui fait vraiment, ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est cet esprit de fraternité. On est tous frères, on est tous des êtres humains qui aspirons au bonheur, et si on nous respectait, si on nous entraidait, c'est ce qui fera que la vie vaut la peine d'être vécue au lieu de nous opposer, de dresser des murs entre les individus et les communautés.
Vivre dans un monde imprévisible, donc le livre est publié chez Fayard. Vous nous livrez en fait un mode d'emploi qui est un manuel de résilience dont vous avez donné la définition, pour mieux vivre dans ces temps difficiles. Alors, j'aimerais qu'on commence un petit peu par le début. Vous avez d'abord fait un constat, notamment que certains étaient passés en mode survie avec le confinement. On a fait en sorte de satisfaire nos besoins vitaux, d'où ces visions de caddies remplis à ras-bord de pâte, d'eau ou de papier toilette. On a eu l'impression que le papier toilette était devenu vital.
C'est utile.
Ouais. Mais parce que ça fait partie des besoins vitaux.
Bien sûr, et il ne faut pas nier ça. C'est-à-dire, vous savez, je parle beaucoup de philosophie, de spiritualité, mais ça n'empêche pas que je suis très conscient qu'on peut commencer à philosopher, à s'intéresser aux choses de l'esprit si nos besoins vitaux sont déjà pris en compte. Et du coup,
manger.
Je repars de la pyramide de Maslow, qui est un psychologue américain, qui nous dit nos besoins fondamentaux, c'est d'abord les besoins physiologiques. Effectivement, boire, manger, aller aux toilettes, voilà, tout le papier hygiénique. Ouais. Et puis après, c'est les besoins de sécurité, se sentir en sécurité, notamment dans sa santé. Et puis ensuite, c'est les besoins d'appartenance. On fait partie d'une communauté, d'une famille, d'un groupe, d'un réseau. Et puis après, il y a les besoins de reconnaissance sociale. Et enfin, il y a les besoins intellectuels et spirituels, de créativité, etc. Et donc, il dit, tant qu'un besoin n'est pas satisfait, on ne peut pas passer au besoin suivant. Alors ça se discute. On peut dire, il y a des gens, j'ai connu en Inde, dans des léproseries ou dans des bidonvilles, des gens qui étaient très spirituels et pourtant ils arrivaient à peine à survivre. Donc ça peut se discuter. Mais lorsque on a vécu en Occident dans un monde relativement aisé, où la sécurité était donnée à l'énorme majorité des individus, cette crise du Covid a réveillé des vieilles peurs finalement, de se dire, mais il faut d'abord avoir besoin de stock alimentaire, se protéger chez soi avant de commencer à penser aux autres choses.
Alors penser aux autres choses, ça veut dire aussi que cette crise, elle a pu offrir des opportunités.
Tout à fait. Alors vous savez que l'étymologie, je le rappelle dans ce livre, du mot crise en chinois, c'est deux idéogrammes. Il y a un idéogramme qui veut dire danger et un idéogramme qui veut dire opportunité. Et c'est vrai que dans toute crise individuelle ou collective, dans toute épreuve, il y a un danger, il y a quelque chose qui nous fait souffrir et puis il y a toujours une opportunité. La crise est là pour nous dire qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu ne vois pas, que tu pourrais faire, qui te rendrait plus heureux? Est-ce que tu ne peux pas réorienter ta vie d'une certaine manière? Et plein de gens l'ont vécu, pendant le confinement.
Vous faites la liste, là je l'ai retrouvée,
de toutes les questions que les gens se sont posées.
Alors, vais-je rester avec mon conjoint? Vais-je continuer le même travail? Vais-je continuer à vivre en ville ou m'installer à la campagne? Vais-je continuer à vivre endetté et dépendant des banques ou alors choisir un mode de vie plus sobre et libre du système? J'ai envie de vous dire, c'est aussi le genre de questions qu'on se pose souvent dans ce qu'on appelle la crise de la quarantaine.
Oui, absolument. C'est souvent à mi-vie, alors qu'on a vécu le nez dans le guidon, parce qu'on fait nos études, après on se marie, on fonde une famille, on cherche un job, on cherche à avoir une sécurité matérielle pour ses enfants. Puis, arrivé à la quarantaine, on se dit, mais au fond, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce qu'elle convient à ma nature? C'est une question fondamentale. Et là, je dirais qu'on se la pose en accéléré, quel que soit l'âge, parce qu'on a pu ralentir. Et comme le dit Grand Corps Malade dans cette chanson que j'ai beaucoup aimée pendant le confinement, il nous dit on ralentit, du coup on a le temps de penser. Et donc beaucoup de gens ont eu le temps de penser et de prendre du recul sur leur vie.
Alors dans ce livre, vous regardez aussi ce qui s'est fait, les décisions qui ont été prises. On va y revenir parce qu'il y a une grande différence avec ce qui avait pu se passer en 69 avec la grippe de Hong Kong. Mais vous évoquez aussi la situation dans les EHPAD et finalement l'inhumanité avec laquelle on a traité la fin de vie de certains dans ces maisons de retraite.
Absolument. Moi, j'ai été j'ai compris qu'il y avait une situation d'urgence. Le gouvernement a beaucoup improvisé. On savait pas comment faire. Il y avait pas de masque, etc. Bon. Et je vais pas jeter la pierre a posteriori parce que c'est pas facile de gouverner dans des temps comme ça. Néanmoins, il y a une mesure qui m'a beaucoup choqué. C'est qu'on interdise des personnes d'aller voir leur proche qui est en train de mourir ou dans un hôpital ou dans une EHPAD. Et là, je pense qu'on a fait passer le sanitaire avant une valeur supérieure à la précaution, je dirais à la prévention sanitaire, qui est de mourir en dignité. Et mourir dignement, c'est mourir accompagné de ses proches. Si on ne peut pas dire au revoir à ses proches, des fois il y a une parole de pardon, il y a dire je t'aime simplement, mais ça n'a pas de prix. Et on aurait en plus très bien pu le faire en prenant des gants et un masque, si on avait quand même quelques-uns à disposition pour les cas d'urgence. Et donc là je trouve que si on revit une situation équivalente, c'est une chose qu'il ne faut pas reproduire. C'est une erreur qu'il ne faut pas reproduire, parce que ça a des conséquences vraiment graves pour la personne qui meurt et pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leur
proche. Le sanitaire a effacé un peu l'humanité.
A effacé l'humanité. Et il faut faire attention aussi aux libertés individuelles. Il ne faut pas aller trop loin dans la privation individuelle au nom d'une précaution sanitaire.
Alors, autre aspect du livre quand même, vous nous interrogez sur notre rapport à la mort. Parce que vous rappelez qu'en 69, la grippe de Hong Kong a fait plus d'un million de morts dans le monde, dont 35 000 en France, et qu'à l'époque, on n'en a quasiment pas parlé. Ça faisait une petite brève dans les journaux. 50 ans plus tard, pour protéger les mêmes personnes, les plus fragiles, les personnes âgées notamment, eh bien on a pris des mesures radicales. Qu'est-ce qui a changé ?
Eh bien, ce qui a changé, c'est plusieurs choses. C'est qu'effectivement, à l'époque déjà, la mort, on trouvait que c'était normal de mourir, qu'on était âgé, quand il y avait une mauvaise grippe, on disait voilà, grand-mère est morte d'une mauvaise grippe, on trouvait ça normal. Bon, déjà aujourd'hui, on voudrait que nos anciens vivent le plus longtemps possible et qu'on les protège le mieux possible. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de médias. Et donc, à l'époque, il y avait deux chaînes de télévision, une radio, ou deux. Finalement, on n'était pas super informé de ce qui se passait. Alors que là, immédiatement, les réseaux sociaux vont nous dire les hôpitaux sont saturés, il y a eu des morts, etc. Et du coup, ça crée une pression beaucoup plus grande sur les pouvoirs publics, qui se sentent obligés de, peut-être des fois, de surréagir, parce qu'on va leur reprocher de ne pas avoir
protégé la population. Parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect inadmissible de la fatalité, de la mort.
Voilà. c'est peut-être, ça va aussi loin que ça. C'est qu'on n'accepte plus la mort, finalement. On se dit, derrière tout ça, ben, on a un droit à la vie. Et d'ailleurs, je suis très choqué qu'on accuse l'État, que des gens font une accusation de l'État de mise en danger de la vie d'autrui. Alors que l'État fait ce qu'il peut, mais je pense pas qu'il y ait eu volontairement le désir de tuer la vie. Donc, il faut qu'on accepte la mort, faut qu'on intègre la mort. La mort fait partie de la vie.
Allez, on va marquer une petite pause avant de recevoir votre invité, Grand Corps Malade.
Quelques bons choix pour aller haut. Aller haut. Et des ratés, des aléas. Aléas. Je suis perdant de cette vie-ci. Et pour celle-là, je suis lauréat, lauréat. Quelques bons choix pour aller haut, aller haut. Et des ratés, des aléas, aléas. Je suis perdant de cette vie-ci. Et pour celle-là, je suis lauréat, lauréat.
RTL, le journal inattendu.
Terre de la santé.
Il est 13h.
Journal inattendu de Frédéric Lenoir.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
L'actualité, c'est cette nouvelle accélération du déconfinement, puisque le feu vert a été donné pour, à partir de lundi, pratiquer les sports collectifs, aller au cinéma, au casino ou dans les centres de vacances. Les stades et les hippodromes pourront rouvrir le 11 juillet, mais avec une capacité maximum de 5000 spectateurs. Pour la fête de la musique, demain, ce sera vraiment en version minimaliste, puisque je vous rappelle, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits, sauf autorisation du préfet. Et puis on en sait plus également pour la cérémonie du 14 juillet. Il y aura quand même un petit défilé place de la Concorde avec la patrouille de France dans le ciel. Emmanuel Macron veut tirer l'affaire Fillon au clair. Le président a saisi le Conseil supérieur de la magistrature après les déclarations de l'ancienne chef du parquet national financier. Elle avait déclaré avoir mené une enquête sous pression, des propos relativisés par son avocat qui estime qu'elle a été mal comprise. Pas de manif cet après-midi à Dijon, malgré l'appel d'habitants du quartier des Grésilles après les violences du début de semaine. Le préfet l'a interdite. Interdite également la manifestation parisienne à l'appel d'associations tchétchènes. Et puis une statue d'un général sudiste déboulonné à Washington par des manifestants antiracistes. Donald Trump parle de honte pour les États-Unis. La météo, c'est à vous de jouer, Frédéric Lenoir. Vous êtes notre monsieur météo.
Alors, météo ensoleillée presque partout en France cet après-midi, avec un ciel un peu plus mitigé toutefois sur la moitié nord du pays. Ça pourrait même aller jusqu'à l'averse, notamment vers la Lorraine et l'Alsace. La moitié sud profitera d'un ciel tout bleu, à peine quelques orages en montagne sur les Alpes et les Pyrénées. Les températures iront de 19 à 31 de Brest à Montpellier, et fera 24 à Paris, Tours et Périgueux. Et j'ajouterai, je vous souhaite surtout beaucoup de soleil dans votre cœur, parce que comme le dit Sénèque, oui, vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, et apprendre à danser sous la pluie.
Pas mal. Alors voilà, il est, vous avez compris, il est philosophe, joli philosophe, sociologue, spécialiste des religions et même maintenant météorologue. Voilà, une ligne de plus. Frédéric Lenoir est à la tête de ce journal inattendu et vous avez choisi, Frédéric, d'inviter Grand Corps Malade. On va l'accueillir dans un instant, mais il n'est pas venu les mains vides. Il nous apporte son dernier titre, c'est un extrait de son futur album prévu à la rentrée, un album hommage aux femmes. Mesdames, c'est le titre de l'album qui sortira le 11 septembre prochain, disque composé de duo, avec notamment Véronique Sanson, Louane, Laura Smet, Suzanne ou autre. Mais on peut déjà écouter ce duo, Grand Corps Malade, Camille Lelouch et Si je t'aime.
Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. C'est bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit, attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts.
On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te blessent. C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te pèsent. J'y suis pour rien, j'y suis pour rien, rien. Mais
je t'aime,
je t'aime.
Si je t'aime, Camille Lelouch, avec Camille Lelouch avec Grand Corps Malade. Ben voilà, vous l'avez entendu. Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour, et puis merci bonjour. De ce cadeau parce qu'RTL est la première radio à diffuser ce premier titre donc avant l'album qui sortira à la rentrée. Et je crois qu'il est déjà dans le top single.
Il est premier. On s'est réveillé ce matin. Camille que je remercie, Camille Lelouch qui écrit sa partie et qui chante incroyablement. C'est une artiste voilà qui est comédienne. Humoriste et en plus qui a une voix dingue, donc voilà, elle m'a envoyé un message ce matin en me disant regarde, et on était premier du top, et voilà, et RTL, voilà. C'est les premiers à la jouer, merci de l'invitation.
Et on embrasse merci évidemment Camille Lelouch. Vous avez noté que Frédéric Lenoir écoutait attentivement, les yeux fermés.
Je suis très touché par cette chanson, je la trouve magnifique, vraiment bravo, parce que c'est mérité que vous soyez déjà en tête, et elle est bouleversante.
Merci beaucoup.
Pourquoi ce disque part parce que vous êtes en duo et pour les femmes.
Eh ben, je pense que j'ai été aussi touché par depuis un an, deux ans, peut-être même plus, par tout cet élan de libération de la parole. Voilà,
le mouvement MeToo.
Le mouvement MeToo, balance ton porc, etc. Je pense que j'ai vu ça comme tout le monde d'un très bon œil, en disant voilà, il y a des choses tellement évidentes et pourtant qu'on continue à taire, qu'on continue à faire comme si elles n'existaient pas. Voilà, les femmes qui sont moins bien payées alors qu'elles ont le même poste. Enfin, il y a toute plein de milliers de petites
injustices. Vous voulez dire que c'est un album féministe que vous allez nous présenter à la rentrée?
À mon niveau, à mon humble niveau, je pense que à partir du moment où on rend hommage aux femmes et je pense que il y a un petit côté féministe. Alors évidemment, il y a plein de thèmes là. On entend avec Camille Lelouch, c'est une chanson d'amour. Il y a des titres, peut-être plus engagés, qui parlent d'un peu de cette condition des femmes. Il y a un duo avec Suzanne où je me mets pendant 24 heures dans la peau d'une femme et elle dans la peau d'un homme. Donc on joue un petit peu avec les clichés des deux sexes. Mais en tout cas, voilà, ça part d'une volonté de rendre hommage aux femmes et après, très égoïstement, de me faire plaisir en écrivant sur mesure pour chacune d'entre elles.
Et de nous faire plaisir, parce que la voix de Grand Corps Malade, elle nous berce.
Ah oui, moi, si j'ai voulu inviter Grand Corps Malade, que je ne connais pas, on ne se connaît pas du tout dans la vie, c'est parce que c'est à la fois un artiste que j'aime en tant qu'artiste, sa voix est magnifique, ses mélodies sont belles, mais c'est un artiste engagé. Mmh. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça d'artistes engagés et engagés intelligemment. Ils ne se contentent pas de dire faut ci, faut ça, on veut un monde meilleur. Mmh. C'est qu'il a vraiment une lucidité, un regard sur notre société, je trouve extrêmement vrai, et avec des propositions. Donc voilà, j'aime les artistes engagés.
Et de vraies propositions, puisqu'en avril, en plein confinement, vous avez sorti un titre qui a tapé dans l'oreille de Frédéric Lenoir. C'est la raison pour laquelle il vous a invité. On en écoute un petit extrait.
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel, les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme. Et de nos fenêtres, on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail. Et même avec l'extérieur, on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles. Et chaque jour, on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine.
Voilà, petit extrait donc d'un titre sorti pendant le confinement de Grand Corps Malade.
Je l'ai quasiment écouté en boucle parce que j'étais en train d'écrire mon bouquin et je me disais c'est incroyable, on dit la même chose.
Exactement.
Vous le dites en 3 minutes, moi je le dis en 140 pages. Donc si vous n'avez pas de quoi acheter le bouquin, écoutez gratuitement sur YouTube ce tube.
Non mais les deux. Je vais lire le bouquin.
Voilà, le livre de Frédéric Lenoir
dans votre chanson.
Vivre dans un monde imprévisible, mais effectivement beaucoup de choses sont dites dans effet secondaire. Justement, le monde d'après, je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'il vous semble si différent du monde d'avant, le monde qu'on nous annonce aujourd'hui ?
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu tôt pour le dire.
Ouais.
Là, évidemment, il y a une espèce d'excitation puisque ça se déconfine et ça fait du bien. Et on réapprend un peu les gestes qui nous paraissaient simples, qui est de s'asseoir en terrasse, commander un café, etc. Et oui, ça fait du bien. Après, sur ces élans de solidarité, sur ce que je dis un petit peu dans le texte, sur se rappeler qu'est-ce qui est vraiment essentiel à notre vie, je pense que c'est encore un peu tôt pour voir s'il y a des choses qui vont rester, j'espère. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il y a des choses qui vont rester. J'espère qu'on va pas tous retomber le nez dans le guidon et à foncer comme avant, comme si de rien n'était.
Vous pouvez le rassurer.
Comme je suis connecté sur Grand Corps Malade, je pense exactement la même chose, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. On ne peut qu'espérer que ce qui s'est entreaperçu pendant cette crise va porter des fruits et qu'on va parvenir exactement comme avant.
Merci beaucoup, en tout cas, Grand Corps Malade, d'être venu nous présenter sur RTL en exclusivité ce single avec Camille Lelouch.
Mais je t'aime.
Mais je t'aime. L'album Mesdames est attendu à la rentrée. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation. Merci.
Et à très bientôt, peut-être dans le fauteuil de Frédéric Lenoir, je l'espère. Merci beaucoup, Grand Corps Malade. À tout de suite. On retrouve Frédéric Lenoir pour son journal inattendu. Et ça va sentir l'encens. À tout de suite.
Frédéric Lenoir, Vincent Parisot.
Le journal inattendu. Ah, ça l'est sucré.
Frédéric Lenoir est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Peu honte de l'interrompre, forcément, mais là, on est vraiment dans le vif du sujet.
C'est sublime. c'est sublime. Le Miserere d'Allegri.
Ouais.
C'est un de mes morceaux préférés, et c'est un morceau, mais angélique, quoi. On touche à la beauté absolue. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez étonnante, c'est que ce morceau a été créé à la Renaissance par Allegri, et il était joué qu'au Vatican. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le droit de le jouer ailleurs, et la partition n'avait pas le droit d'être retranscrite.
Sinon, on était excommuniés.
C'était incroyable.
C'est fou, ça.
Ça devait être réservé aux cardinaux. Et Mozart, le jeune Mozart, va au Vatican, il entend, il avait 13 ou 14 ans, il entend le morceau et il retranscrit intégralement la partition. Et c'est grâce
De mémoire.
Wow. Il a été deux fois.
Il avait un certain talent.
Non, mais il avait un certain, on le savait, hein, mais là c'est la confirmation. Et c'est grâce à Mozart que ce chef-d'œuvre absolu est sorti du Vatican, que tout le monde a pu l'entendre et le jouer dans les cours européennes de l'époque. Mmh. Donc le Miserere d'Allegri, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Les religions, alors je rappelle que vous avez dirigé le monde des religions, que vous êtes historien des religions, elles ont pris un coup avec le virus qui a empêché les rassemblements religieux, ou au contraire?
Ça dépend,
difficile à dire.
Y a les deux. Ouais. Elles ont pris un coup déjà économique, puisque je sais que par exemple, pour parler du catholicisme, le fait qu'il n'y ait pas eu les cultes, ça a mis en faillite.
Il n'y avait pas la quête.
Il n'y avait pas la quête, ça a mis en faillite un certain nombre de diocèses, donc c'était un coup économique. Après, je pense que les religions si elles ne sont pas que dans le rituel, elles sont aussi dans la spiritualité, et qu'au contraire, une crise comme ça peut interpeller les croyants, les amener à pratiquer plus la prière, la méditation, à prendre le temps de finalement être un peu plus peut-être connecté à la transcendance. Donc je crois qu'une crise peut stimuler les croyants pour être davantage, je le disais dans le livre à propos de ma vieille maman, qui m'a dit, je lui dis, mais maman, t'as pas vu personne pendant 2 mois dans ta maison de retraite. Elle me dit, oui, mais j'ai prié pour les gens, pour mes enfants, etc. Donc, les gens qui ont une foi profonde, je pense qu'une période comme ça, ça les aide à aller peut-être plus loin dans leur spiritualité.
Mais vous aussi, vous avez une foi assez profonde.
Oui, alors moi, je me définis comme un croyant agnostique. Ouais. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on appelle Dieu, mais je ne sais pas très bien ce que veut dire Dieu, même si j'ai beaucoup étudié la question, parce que je pense qu'on ne peut rien en savoir, mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et je ne le nomme pas, je ne le définis pas, c'est dans ce sens-là que je me dis agnostique, je ne sais pas.
Tiens, un petit cadeau, vous l'avez choisi vous-même. OSS 117 au Caire avec Jean Dujardin qui n'apprécie pas vraiment de se faire réveiller par le muezzin.
Mais il va la fermer sa gueule!
Rentrez du pays.
Excusez-moi, oh! C'est pas possible. Le micro là, c'est vraiment pas. Donnez-moi ce micro. Ne faites pas l'enfant. C'est le micro. Ah, donnez-moi ce micro.
Ah, dites-moi, Lermina. Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire.
Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin?
Le?
Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin.
Ah, j'ignorais. C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On n'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir.
Ouais, c'est comme réplique.
C'est excellent. Au-delà de ce film, globalement, est-ce que vous défendez le droit au blasphème ?
Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait exprimer une critique envers les religions. Après, je suis plus nuancé dans le contexte, c'est-à-dire selon le contexte. Et je trouve, par exemple, que lorsqu'il y a un contexte de tension entre communautés, etc., ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'aller gratuitement, violemment attaquer une religion alors qu'il y a une tension extrême, politique notamment, je pense que c'est inutile. On va rajouter des morts, on va rajouter des conflits. Mais après, qu'un écrivain, qu'un auteur intelligemment puisse s'exprimer une critique envers une religion, voire dire cette religion, je ne l'aime pas, et le dire avec ces mots, pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit fait, je dirais, à bon escient et intelligemment.
La semaine dernière, c'est le photographe des 60s, Jean-Marie Perrier, qui était à votre place, et il vous a posé une question assez directe d'ailleurs.
Bonjour Frédéric Lenoir, c'est Jean-Marie Perrier. Écoutez, alors vous, qui, à force de vivre avec les dieux, est-ce que vous succombez encore au plaisir terrestre ?
Ah, je crois que Jean-Marie Perrier ne me connaît pas du tout. Parce que tous ceux qui me connaissent, c'est que je suis un épicurien.
Ah oui.
J'adore la vie, j'adore les plaisirs. Et la plupart de mes livres parlent de quoi ? De plaisir, de joie, de bonheur qui passe aussi, bien évidemment, par le corps. Donc c'est pas parce que je parle de l'esprit, parce que je pense que dans notre monde, on parle pas assez de l'esprit, on parle pas assez de spiritualité et des forces de l'esprit, mais je pense que la vie, c'est aussi savourer avec tous nos sens les joies terrestre.
Frédéric Lenoir, qui s'est décrit comme un chrétien agnostique. Alors tiens, avant de marquer une pause et de vous faire une petite surprise, j'ai choisi Cabrel, qui lui non plus n'en finit pas de s'interroger là-dessus.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux ?
A tout de suite avec Frédéric Lenoir.
RTL, le journal inattendu.
Coucou Anne.
Le journal inattendu de Frédéric Lenoir avec Vincent Parisot sur RTL.
Essaye un moyo da partisano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Ah, le Bella Ciao de la Casa del Papel, ah, ça va monter, c'est assez euphorique. C'est pour ça que vous avez choisi cet extrait.
Oui, c'est un chant révolutionnaire italien qui a été repris par la série culte La Casa del Papel, et elle a une pêche, un enthousiasme. Moi, voilà, si je veux me booster, j'écoute ça. Faut vraiment la découvrir si vous la connaissez pas.
Est-ce que à un moment de votre vie, vous êtes posé la question d'une vocation religieuse ?
Oui, tout à fait. Quand j'ai découvert les Évangiles à l'âge de 20 ans, j'étais bouleversé par ce message. Je m'intéressais à toutes les spiritualités sauf le christianisme. C'était la religion de mon enfance. Je la trouvais dogmatique, elle m'intéressait pas. Et puis d'un coup, je lis les évangiles, ça m'a percuté. Et tout en continuant mes études de philosophie, j'ai passé 3 ans dans un monastère. Puis j'ai découvert que j'ai quand même besoin des joies épicuriennes. Donc ouais. Je suis pas resté, mais j'ai gardé un amour très profond, effectivement, pour le christianisme.
Ouais. Et vous avez publié Dieu. En 2011, un livre de conversation avec une journaliste.
Tout à fait, Marie Drucker.
Ouais, qu'on connaît
que
bien.
Que vous connaissez bien, parce qu'elle vous a précédé d'ailleurs dans ce podcast.
Exactement, et qu'on est ravis d'accueillir. Bonjour Marie.
Oh.
Bonjour Marie. Ah, et ben voilà, l'émission qu'elle a présentée pendant des années refuserait-elle de l'accueillir. Marie, est-ce que vous nous entendez? Une fois, deux fois, trois fois, on va évidemment s'énerver un petit peu ici parce qu'on me signalait en régie qu'on l'entendait très bien.
Mais en attendant qu'elle arrive, je veux dire effectivement que j'ai eu beaucoup de joie à faire ce travail avec Marie Drucker, qui était une journaliste qui s'intéressait à tout et notamment à la religion. Et on a fait ce livre avec beaucoup de plaisir qui pose toutes les questions. D'ailleurs, il existe en poche aujourd'hui. C'est toutes les petites questions que des croyants ou les athées peuvent se poser sur Dieu.
C'est les questions qui entourent le finalement et Dieu dans tout ça.
Et Dieu dans tout ça, finalement. D'où est née l'idée de Dieu, Dieu dans la préhistoire, comment est né le concept de Dieu, Dieu dans la philosophie, le Dieu des religions et notamment des monothéismes. Donc enfin, elle m'a posé toutes les questions qu'un esprit curieux se pose sur Dieu. Et c'est vrai que c'était un régal de faire ce travail avec Marie Drucker, parce que c'est une personne adorable que vous connaissez.
Qu'on connaît très bien, que j'adore, et que malheureusement on ne va pas pouvoir avoir en ligne. Alors pour quelle raison? Là, ça, c'est un mystère, puisque nous l'avions en ligne il y a quelques secondes. Mais évidemment, c'est pas très grave.
C'est l'intention.
Mais on aurait
qui
vraiment aimé la voir, vous comprenez. Ah, Marie! Voilà,
Marie.
Oui, vous y êtes.
Oh, j'y reste. Voilà, tellement désolée, je suis sur la route, les amis.
Oh, vous êtes ici chez vous, Marie, dans cette émission que vous avez présentée pendant des années avec votre ami Frédéric. Vous vouliez lui poser une question, hein, Frédéric?
Oui, bonjour mon chéri.
Salut Marie, ah bah c'est cash. Hein. Mais Marie, tu me manques déjà. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu.
Mais c'est aussi une pierre dans mon jardin parce que la vie passe et on s'est appelé il y a pas si longtemps. Il y a quelques mois, tu partais pour un de tes
voyages
grands voyages merveilleux au bout du monde. Et voilà, mais tu me manques aussi beaucoup, beaucoup. Non, j'avais une question à te poser. Je t'entendais à l'instant. Tu parlais aussi de l'enthousiasme que tu as en toute chose, parce que je te connais bien. J'ai cette chance. Je voulais savoir ce qui te mettait profondément en joie.
Oh, quelle question.
Vaste
vous
question.
Vous avez 2 heures.
Non, mais en fait, vous avez 30 secondes surtout. Qu'est-ce qui vous met profondément en joie, Frédéric?
Alors, beaucoup de choses, notamment dans la nature. Mais je crois que les plus grandes joies que j'ai eues dans ma vie, c'est quand j'ai vu quelqu'un qui était triste devenir heureux. Convertir sa tristesse en joie. Ouais. Et je me souviendrai tout le temps, la première fois que j'ai vécu ça, c'est j'avais donné un clochard dans la rue un hiver où il faisait froid, j'avais un poncho, j'avais 13-14 ans, qu'on m'avait rapporté du Mexique, j'étais tout heureux, ouais. C'est la mode des ponchos des années 70.
Bah je me souviens.
Je l'ai donné tout de suite à un clochard qui avait froid et son regard s'est transformé et la joie qu'il avait dans ses yeux m'a mis dans une joie incroyable. Mmh. Il y a une phrase des évangiles d'ailleurs de Jésus qui dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mmh. Et ben j'ai découvert ça dans ma vie que les plus grandes joies qu'on a, c'est souvent quand on rend heureux quelqu'un.
Marie, évidemment, on aurait préféré passer un petit peu plus de temps avec vous. Malheureusement, c'est pas possible. Je voudrais quand même préciser que vous allez nous proposer une nouvelle émission, une série documentaire à partir de mercredi. Regard de femmes, c'est ça?
Absolument.
L'été sur France 2, en seconde partie de soirée.
Exactement, ce sont des réalisatrices qui font des films sur des femmes. Voilà.
D'accord. Bon, donc on va parler de féminisme ou simplement de la vie des femmes?
Mm-hmm. Non, de la vie, exactement, de la vie des femmes. Ce sont des films plutôt de société, comme on dit. Et en fait, ce sont des femmes qui, à travers leur parcours, leur combat, nous renseignent aussi sur nous et sur la société en général. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. On sera au rendez-vous.
Merci, je vous embrasse très fort, tous les deux. Frédéric,
Marie.
Tu raccroches et tu m'envoies une date pour qu'on se voit.
Super. Merci, Marie, d'être venue.
J'ai l'impression qu'un dîner est prévu. Merci beaucoup.
Bonne route.
Marie, à très bientôt sur RTL, je l'espère. Frédéric Lenoir, Vive dans un monde imprévisible, est publié chez Fayard. On a passé un excellent moment. La semaine prochaine, Olivia Ruiz. Et dans un instant, Confidentiel, Jean-Alphonse Richard, consacré à Gérard Depardieu. Bon samedi.
RTL. Le journal inattendu.